Je suis Sébastien Joseph, directeur des programmes de Fun Radio, et vous écoutez le podcast All Stars. Dans cette deuxième saison, nous sommes allés à la rencontre de Bob Sinclar, figure incontournable des DJ français. Ensemble, nous avons évoqué les périodes marquantes de sa vie d'artiste. Dans ce quatrième et dernier épisode, le DJ producteur nous racontera tout le processus de création de l'un de ses plus grands tubes, Love Generation. Il nous dévoilera comment ce tube planétaire a donné un second souffle à sa carrière en apparaissant chaque soir à la télévision dans l'un des programmes les plus suivis de l'époque, Star Academy.
D'après toi, quel titre on a le plus joué de toi sur Fun Radio ?
Oh, je pense que ça doit être Roxy's Party. Yeah.
Celui qu'on a le plus joué, c'est Love Generation.
Ah ouais, Love Generation ? Eh ben écoute, tu sais, assez curieux, parce que je vais t'expliquer quand même ce qui s'est passé sur Love Generation. C'est que je fais le morceau en 2004. Alors, 2004, je suis au fond du fond. Hein. Je suis sur la fin d'Africanisme, même si on vient de sortir un troisième volume, ça sent un peu la fin. Hein. Le disco, c'est même plus la peine d'en entendre parler. Donc je me dis, putain, qu'est-ce que je vais faire, tu vois ? Mais quand même, je suis un peu emmerdé. Donc je décide de... Il y a ce morceau à l'époque qui sort, Funk Star Deluxe, avec un sample de Bob Marley. Je dis, tiens, c'est une idée assez intéressante. Donc la base était disco et le vocal reggae. Donc ça fait un carton. Et ça, je te parle, je pense que c'est 2003-2004. Je dis, tiens, c'est drôle. Mais moi, je m'inspire évidemment de choses que j'écoute hein, tous les jours. Hein. Ça fait partie de la, voilà, l'inspiration générale. Tout le monde s'inspire de tout le monde. Je dis à Alain Wisniak à ce moment-là, parce que je continue à travailler avec lui, je dis, voilà, il faut préparer des bases disco, donc moi, je vais sampler, machin, etc. Et pourquoi pas trouver un chanteur reggae pour essayer de chanter sur nos bases disco. On va voir, on va essayer, mais il n'y a qu'à New York où on peut trouver ça. Et je me souviens d'être resté 4 jours à New York, et je fais des maquettes, il n'y a rien qui sort sur mes bases disco. Et en même temps, à Paris, je travaillais avec un mec qui s'appelle Jean-Guy, bref, que j'avais fait venir au studio pour trouver des samples, trouver des idées. Parce qu'à ce moment-là, il faut absolument s'entourer, comme je t'ai toujours dit, de musiciens, de gens un petit peu qui ont des idées, pour pouvoir te recycler et te renouveler, tu vois. On compose avec Jean-Guy, qui a des idées de mélodie, des trucs comme ça. Moi, je fais les voix. On compose en même temps un instrumental à base de guitare acoustique, où moi, je fais toutes les voix. Donc, je chante des mélodies pour qu'elles soient remplacées par des musiques. Par des musiciens, tu vois. Je crée un instrumental comme ça, je bidouille un truc, mais que je mets dans un coin parce que c'est trop pop, tu vois. Personne n'a jamais fait un morceau de dance avec quatre accords de guitare acoustique, tu vois. Ça ne se voit pas, ça ne se fait pas. Donc je reste 3-4 jours à New York en studio et j'avais toutes ces bases musicales. Et pendant 3 jours, je fais de la merde. Tu vois, c'est-à-dire du disco avec un chanteur reggae qui était là, mais qui n'était pas très bon. Et puis, le dernier jour, quasiment dans les 3 dernières heures de studio, où j'ai déjà dépensé, je pense, 10-12 000 $, parce que quand tu fais venir les gens au studio, il faut que tu les payes. Il y a un chanteur reggae qui débarque, qui s'appelle Gary Pine. Et j'avais tout tenté avec l'autre chanteur, déjà. Donc, je dis, Gary, écoute, je voulais faire une base disco, mais moi, j'ai plus grand-chose à te faire chanter. Bon, il me reste ça. J'ai 4 accords de guitare acoustique avec un pied de batterie, toutes les voix, c'est moi qui les ai fait, le sifflet. J'avais sifflé là pour être remplacé, peut-être pour faire une mélodie de chant, ou je sais pas, me demande pas, c'est des détails, c'est des accidents. Et il me dit, bon, écoute, je vais essayer de faire un truc. Pendant ce temps-là, on continue à bidouiller dans le studio, il part dans un autre studio écrire 3-4 lignes, tu vois. Et puis au bout d'une heure, il revient et je dis, bah écoute, c'est bien, ouais, pas mal, écoute, passe derrière le micro, je mets l'instru dans l'ordi. J'ouvre le micro et il commence à me chanter Why must the children play in the street? Why must the children play in the street? Broken hearts and faded dreams. Ah ouais, ouais, quand même, là il y a une mélodie. Et sa voix est la même que celle de Bob Marley. C'est incroyable. Et ça match parfaitement avec la guitare acoustique. Bob Marley faisait de la guitare acoustique aussi quand il fait Redemption Song. C'est. Que de la guitare acoustique avec sa voix. Et là, d'un coup, il y a un petit côté nostalgique chez moi qui vient, parce que toujours, je dis, waouh, Bob Marley is back. Tu vois, un truc, je me dis ça dans ma tête, c'est incroyable. Old pirates, yes, they rob I, sold I to the merchant ships. Et tu vois, avec cette notion de recyclage, de sample, je dis, c'est comme si j'avais samplé Bob Marley, c'est incroyable. Et donc, dans le studio, il y a Alain Vizignac, il y a Dwayne Arden, qui est le chanteur de You Don't Know Me. Armand Van Helden, donc qui fait un carton en 98 aussi avec ce truc-là, et qui lui écrit des mélodies. Donc lui, il vient là, et le chanteur, Dwayne Arden, tout ça, ils écrivent la mélodie, on donne des bouts de texte, voilà, on est 5-6 dans le studio, on donne des bouts de texte comme ça. Alain Vizignac est là, qui fait des petites mélodies et tout. Et avec l'ingénieur du son, quand même, qui est là avec nous à New York, je dis quand même, putain, là, c'est... Donc, on a 3 heures d'enregistrement de... C'était tellement bon qu'il a enregistré pendant 3 heures des milliers de mots, des milliers... sans vraiment de refrain, de couplet, etc., etc. Et je lui dis quand même, on a quelque chose de fort, là. On a un truc fort. Avec la petite mélodie d'Alain Vizignac à la dernière minute qui nous sort... Il dit, il n'y a pas de refrain. Donc, le chanteur fait, ouais, be the lost generation. Moi, je dis, non, lost, ça ne me plaît pas. Je veux que de l'amour. Be the love generation. Et on sort, et il repart enregistrer be the love. Et ça fait des milliers de bouts de voix. Hein. Je suis un peu, tu sais, quand tu sors d'une séance de studio où tu es très excité, tu as l'euphorie au maximum. Tu dis, oh, mais cette euphorie peut tomber le lendemain où tu réécoutes le morceau qui est pourri, tu vois. Bon, j'ai fini, tac, tac. On est heureux d'avoir fait ça. On est tous excités. Mais je rentre à Paris avec ça. Mais je n'écoute pas le morceau pendant une semaine. Je n'écoute pas les sessions que j'ai fait à New York pendant une semaine. Parce que j'ai peur. J'avais ressenti une émotion tellement forte en le faisant. Je me suis dit, putain, si ça retombe, je serais au bout, tu vois. Je serais vraiment très triste. Mais je rouvre la session. Et là, j'ai la magie, enfin, le truc de fou, quoi. Mais par contre, j'ai je sais pas, 30 pistes de voix à éditer. Sans vraiment de couplet, de refrain. Donc, il faut que j'édite tout ça.
À choisir.
Non. Donc, je me mets tout seul dans le studio. Et pendant une semaine, j'édite le vocal en prenant les meilleures places. Parce que tu vois, il y a un couplet, il y a le refrain. Et après, il parle pendant un deuxième couplet. Et après, ça se finit avec le refrain, etc. C'est un peu bizarre comme structure. Bon, je le fais. Et je le finis. Et j'ai du mal à le finir parce que tellement je le trouve beau, tu vois. Et je me dis, putain, si honnêtement, je me souviens m'être dit ça. Si ce morceau ne marche pas, je pense arrêter la musique. Parce que je te dis, c'est un moment 2004 où je suis un peu, je manque un peu de créativité. Et je sors ça. Et je finis le disque. Et la première personne à qui je le fais écouter, c'est David Guetta et Joachim Garraud. Je vais écouter le morceau à David. Et il me dit, mais... Alors, le morceau fait 8 minutes à la base. Il n'y a pas d'édit radio. Comment tu veux que les gens dansent? Lui, à ce moment-là, en 2005, fait de l'électro à mort. Il me dit, comment tu veux que les gens dansent sur un morceau de guitare acoustique avec un chanteur reggae? Ça ne marchera jamais. Ça ne fera jamais danser les gens, en tout cas. Ah, je dis, merde, putain, Joachim, pareil. Et quand j'ai eu cette interview avec lui, mais non, c'est pas vrai. Et moi, je dis que c'est vrai. C'est pas du tout pour lui dire. Tu vois, c'était l'anecdote.
Il t'a conseillé.
C'est l'anecdote.
Il t'a fait un petit électrochoc.
Merde, ça va pas marcher, putain. Parce que lui, il faisait des cartons à l'époque. Donc, tu vois, vraiment, lui, il explose. Tu vois, 2004, 2005, 2006, c'est là où il monte très fort. Mais je dis, c'est pas grave. Donc, et je le teste à Miami. Donc, je fais fabriquer des vinyles. Mars 2005, je suis booké à la soirée Defected en open air, pool party, où il y a tous les DJ. Hein, là, vraiment. Et Defected, c'est surtout une partie très culte, où tous les DJ de la scène internationale se réunissent pour écouter les nouveautés et ce qu'ont à jouer les DJ. Encore une fois, il n'y a pas encore. Il y a toujours du vinyle. Le CD à peine commence, mais on est encore en vinyle. D'accord? Donc, j'amène mes promos, mes trucs comme ça. Et je me souviens, donc je rentre mon DJ set, je commence, donc, et je vais donc ouvrir mon DJ set avec Love Generation.
Gros pari.
Avec les gens, même à l'invité, me dit non, tu peux pas sortir ça sous ton nom, c'est trop africanisme, donc c'est trop africain, c'est trop reggae, c'est trop machin. Je sors d'une période très disco avec The Beat Goes On et Kiss My Eyes, etc. Gym Tonic et tout ce que j'ai fait avant. Je dis quand même, putain, moi ça me plaît, tu vois, donc j'ai envie de le faire. Je joue le titre Bid. Les gens me regardent comme si j'étais un extraterrestre. Tous les DJ, ils me croisent les bras comme ça. Les gens ne dansent pas. Il ne se passe rien. Au deuxième break, le morceau dure 8 minutes. Donc au deuxième break, il y a quelques gonzesses qui esquivent un petit pas de danse. Mais je dis, voilà, je suis mort. Donc je me baisse derrière. Donc les vinyles, je prends vite un I Feel For You. Je joue pendant une heure. Donc je rattrape l'affaire. Je joue les tubes du moment, machin. Donc la guerre, je rame comme une bête. Et je ne peux pas rester sur un échec, donc je vais le jouer quand même une deuxième fois. Donc je ferme mon DJ set avec le titre. D'accord ? Au moment où l'accord de guitare sort, une émeute, C'est-à-dire les gens, soleil, une émeute. Je ne sais pas pourquoi, d'un coup, le truc, ça le fait. Ils ont peut-être bu un petit coup, j'en sais rien. Et là, tout le monde vient me voir en disant c'est quoi. Donc, je distribue mes promos. Simon, Dunmore veulent jouer, tout le monde veut jouer. Et c'est l'excitation. Donc, c'est le buzz qui commence à ce moment-là. Et je sors le vinyle, donc en avril 2005. Avril, mai, juin. Carton du vinyle, machin, etc. Les DJ le jouent dans le monde entier. Encore une fois, il n'y a pas d'Internet, il n'y a pas de tout ça. Il y a Internet sûrement, mais en tout cas, on n'est pas tous dessus. Les titres ne se partagent pas. La promo ne se fait qu'en vinyle. On ne planifie pas la sortie d'un CD, d'un single pour le moment, parce qu'on n'a pas de label. On ne va pas le sortir sur Yellow, tu vois. On n'a pas de label deal.
Et à Miami, tu le joues en quoi, 8 minutes ?
Je le joue 8 minutes, ouais.
Ah oui,
en vinyle.
Dingue.
Ah ouais. En juin, il y a un mec qui m'appelle, c'est Philippe Laugier, de chez Barclay.
Philippe Laugier est une figure incontournable de l'électro en France. Ancien journaliste musique, il est devenu par la suite l'un des plus grands directeurs artistiques de Paris. Il est notamment l'une des personnalités qui a participé à mettre la musique électro-française sur le devant de la scène internationale.
Donc Philippe Laugier m'appelle, il me dit « Viens dans mon bureau, absolument, j'ai entendu ça, il faut bien me faire écouter ça, je veux signer ça. » Écoute, génial, super, en France, magnifique.
Donc le 8 minutes devient 3 minutes 30, 4 minutes.
Le 8 minutes devient 3 minutes 30. Ça commence à... Alors, il l'envoie en radio, mitigé, tu vois, pas terrible, machin. Hein, on fait quand même la promo, etc. Donc, le buzz se continue à se faire dans les clubs. Juillet, août, sauf que fin juillet, vers le 25 juillet, je m'en souviens, Pascal Nègre m'appelle et me dit, écoute, on vient d'avoir un appel de la Star Academy.
Pascal Nègre est à ce moment-là le PDG d'Universal Music France.
Il cherche un morceau pour succéder au morceau qu'il y avait avant. Mais moi, la Star Academy, c'est de la télé-réalité. D'où je viens, oublie. Alors voilà, il faut retracer que je viens de 2004, underground, crédibilité, tu
French
vois.
Touch, tout
French
ça, quoi.
French Touch, voilà.
Né dans le marais, tout ça, quoi.
Ouais, encore, pas grave ça, mais street crédibilité, machin. Donc là, si j'associe ma musique à un truc comme ça, je perds mon image. Pour moi, dans ma tête, c'est je dis non. Je dis c'est impossible. Pascal, c'est même pas la peine. Il me dit bon, d'accord. Sauf qu'en pendant 3 semaines, Star Academy, il tombe amoureux vraiment du morceau et il dit à Pascal non, il faut que tu essayes de convaincre ton artiste parce que c'est pas possible, on peut pas passer à travers. Et Pascal me rappelle un 15 août, je m'en rappelle, elle me dit écoute, Bob, on va être numéro 1 des ventes, tu vas en vendre 300 000 en France, il faut que tu le fasses. C'est comme ça, je cherche même pas, t'as pas de choix. C'est ça aussi des décisions que tu prends dans ta vie, c'est où tu acceptes, où tu ouvres la porte du succès qui t'arrive, ou tu la fermes. D'accord ? Et donc, écoute, je décide de l'ouvrir à ce moment-là. N'oublions pas que même s'il y a des succès de clubs, radio, etc., etc., le DJ n'est toujours pas identifié à la télévision, etc., etc. N'est pas bankable, n'est pas... voilà. Mais, boum, Star Academy démarre en septembre, carton énorme, numéro 1 des ventes en France, 250 000, 300 000 singles, partout dans le monde, on en vend, je ne sais plus combien, 2 millions, un truc de fou furieux. Mais le petit bémol, c'est qu'en radio... On ne fait pas un numéro 1 radio, on ne fait qu'un top 20, parce que la télé vampirise l'image du titre. Et le fait que, comme le morceau passe en boucle à la télévision, il y a un petit côté fatigue qui arrive très très vite en radio.
Voilà. Parce que Star Academy, c'est tous les jours à la, télé. Hein.
Tous les jours à la télé.
Avec le recul, justement ça, tu te dis j'ai bien fait ou
bien sûr que j'ai bien fait, parce qu'à la suite de ça, ils m'ont appelé à jouer le titre à l'antenne. Donc il dit viens avec le chanteur, on va le jouer à l'antenne, etc. Carton absolu. Et à la suite de ça, David, Martin, tout le monde s'est précipité à la Starac pour aller jouer.
Les DJ arrivent.
C'est la première fois
en prime time à la
télévision.
Mais
oui, exactement. C'est la première fois que des DJ arrivent et les émissions télé voient que le DJ fait danser les gens dans le studio et qu'il y a une réelle excitation, quoi.
Comment t'imagines la suite ?
Bah écoute, je dis toujours, les gens me disent, est-ce qu'il y a un DJ qui part à la retraite ? Il n'y a pas de DJ encore. Carl Cox a 56-57, David a 52. Bon, il y a plein de DJ qui ont plus de 50 aujourd'hui et qui sont les tu vois, Tiesto, machin, qui sont toujours là. Ils sont toujours dans le top 10 DJ, ils tournent dans le monde entier et c'est toujours les références. Et je pense que là, les jeunes veulent de plus en plus réécouter. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le DJ ne vieillit pas. C'est extraordinaire. C'est qu'en fait, la musique, le clubbing, les clubbeurs sont mon portrait de Dorian Gray. Tu vois, c'est comme si j'avais signé avec Faust. Tu vois, c'est mon opéra à moi. Je ne vieillis pas, ne me donne pas d'âge. Des gens dansent à 20 ans, ils dansent sur la musique. Ah ouais, dis donc. Et puis il y a des gens qui aujourd'hui ont 50 ans, ils sont tous divorcés. Ils ont tous une petite jeune qui veut ressortir et ils veulent réentendre la musique qu'ils entendaient il y a 20 ans et pas de l'IDM bruyant. Tu comprends? Donc, il y a toute une génération comme ça qui se mêle à la nouvelle et qui aime entendre encore Bob Sinclair et puis, bien sûr, Solveig et tous les DJ qui sont là. Mais c'est fou. Il y a des clubs dans lesquels, comme le Cap d'Agde, au Cap d'Agde, par exemple, à l'Amnésia, Grégory et André m'ont booké. C'est les premiers à m'avoir booké en France en 99. Ça fait 20 piges que tous les étés, ils me bookent. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou de penser ça. Ils me rebookent pour l'été prochain. Tu vois? Et c'est dingue. Donc, en fait, je traverse les années et je suis très heureux. Voilà. Parce que moi, ma passion, c'est faire danser les gens. Vraiment, c'est leur jouer de tout. C'est mon destin.
Merci, Bob Sinclair.
Merci à toi, Seb.
Vous venez d'écouter la fin du podcast All Stars consacré à Bob Sinclair. Je tiens à remercier chaleureusement Chris pour ses jolies histoires qu'il nous a partagées, ses souvenirs et ses expériences qui inspireront certains d'entre vous, j'en suis sûr. Et en ce qui me concerne, j'ai adoré son histoire des débuts où il allait en Belgique puis en Angleterre pour vendre ses vinyles. Si vous avez aimé cette deuxième saison, laissez-nous un maximum d'étoiles et dans les commentaires, n'hésitez pas à nous dire quels artistes vous souhaiteriez découvrir dans la prochaine saison. Vous pouvez retrouver tous les épisodes d'All Stars sur funradio.fr et sur toutes vos applications de podcast favorites. À très vite.